Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. Sur France Inter.
Bonjour Gérard Felzer.
Oui, bonjour Eric.
Vous avez été l'un des médiateurs dans le dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes proche de Nicolas Hulot. Les zadistes ont fait un effort hier en déposant une quarantaine de dossiers individuels et nominatifs pour la plupart afin de construire une future zone rurale à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que nous sommes bel et bien passés à une séquence d'apaisement durable ?
Enfin, c'est vrai que Nicolas Hulot a tendu la main.
En faisant une réunion mercredi dernier.
Voilà, et donc ça a répondu. Il faut aussi saluer l'attitude de Nicole Klein, la préfète
de Loire-Atlantique.
Qui évidemment a été toujours et depuis le début dans une espèce d'attitude d'apaisement, ce qui n'était pas du tout évident. Nous, on l'a fréquentée pendant 6 mois. On a interviewé à peu près 300 personnes.
Lorsque vous avez remis votre rapport à la fin de l'année dernière.
Pour essayer de faire un rapport le plus objectif possible. Moi, j'étais un peu schizophrène dans cette affaire parce que j'étais l'aviateur. Donc plutôt favorable à une infrastructure aéroportuaire, on va dire. Et puis l'autre côté, citoyen, où je me dis, bon, c'est peut-être pas la seule solution, on va voir ce qu'on peut faire avec l'ancien terrain. Donc partager entre les deux, et le rôle c'était pas de choisir, ni de dire faut prendre une ou autre solution, c'est de donner les éléments à la décision.
Alors on va s'intéresser à ce que va devenir cette zone aujourd'hui. Une nouvelle réunion est prévue avec la préfète lundi prochain pour commencer à étudier la quarantaine de dossiers. Certains dossiers posent déjà problème, a dit la préfète. Y a-t-il un risque de voir les choses s'envenimer à nouveau ?
Ah, ça reste fragile, évidemment. Et puis, avant le 9 avril, il y avait à peu près 150 personnes avec des projets qui, certes, n'ont pas été déposés. Ils ont un mode de fonctionnement dans la ZAD un peu particulier quand même.
C'est-à-dire ?
Des assemblées générales quasiment tous les soirs. Enfin, moi qui suis un vieux 68-art, ça me rappelait des souvenirs.
Mais, les âgés.
Les fameux âgés. Et donc, pour en sortir quelque chose avec des pressions pour ceux qui vraiment voulaient s'installer, proposer des projets. Il y avait quelques-uns qui finalement, vous savez, les votes à main levée, c'est jamais évident. On regarde son voisin, on a un peu les jetons. Difficile à construire. Et pourtant, il y a des projets intéressants. Puis d'abord, aller habiter dans cette zone, c'est pas évident. Des jeunes qui reviennent à la terre, c'est quand même assez particulier, avec un mode de fonctionnement. Et on s'est battu sur les projets individuels et projets collectifs.
Alors voilà, il faut expliquer ce qui fait débat et ce qui a bloqué et ce qui peut encore bloquer. Ce sont les critères administratifs pour déposer les dossiers. L'État souhaite recevoir des dossiers nominatifs et individuels quand les ZADIS préfèrent proposer des projets collectif, sans nomination derrière forcément. Qu'est-ce que ça change ?
Finalement, ça change pas grand-chose. C'est de la posture parce que ils peuvent avoir des projets collectifs tout en se déclarant individuellement. Finalement, ils ont fini par accepter de lever l'anonymat. Pourquoi l'anonymat ? La période d'incertitude où ils risquaient d'être expulsés, manu militari. Bon, ils s'appelaient tous Camille. Donc, je pense que là, à chaque fois qu'on allait les voir, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Camille. Bon, d'accord. C'était difficile. Mais on avait, et je pense que
faut
finalement...
Faut expliquer pourquoi Camille.
Alors Camille, ils ont pris un prénom au hasard.
Ils ont généralisé le prénom Camille à chaque fois qu'on leur demandait
absolument
de se présenter.
Oui. Et donc, un peu partagé entre Fleur Bleue, ce que j'appelle les néo-agriculteurs, qui ont des projets, je parle pas des anciens, les historiques, que j'ai eu au téléphone encore hier, qui eux, vraiment, ont continué leur projet et veulent continuer leur projet. Et moi, je pense que la pacification se fera par les tracteurs des agriculteurs historiques. Parce que ils peuvent plus exploiter, 4000 lacrymogènes, les vaches veulent plus aller dans les champs pour
il va falloir travailler dur derrière.
Donc, il faut travailler, ça va prendre un peu de temps. On a comme exemple, on en parlait avec la Confédération Paysanne, entre autres, l'expérience du Larzac. Finalement, ça a pris du temps, mais ça s'est assez bien passé. Bon, le contexte n'est pas tout à fait le même, c'était l'armée, etc. Mais quand même, il y a une expérience à mener. Moi, j'appelle ça terre d'avenir et ciel d'avenir. Terre d'avenir, ça veut dire qu'il y a un nouveau mode de agriculture, d'élevage.
Solidaire, non compétitive.
Absolument, les circuits courts, des produits bio, mais il faut les aider parce que quand on fait du bio, ça demande des investissements. Or, ils arrivent là, ils sont pas toujours bien formés, donc je pense que il faudrait pouvoir les encadrer, les aider. Il y a l'INRA qui est pas loin, l'Institut National de Recherche Agronomique à Nantes. Nous, on avait proposé qu'il y ait une antenne d'expérimentation, que finalement Notre-Dame-des-Landes, qui est connue du monde entier maintenant, eh bien que ça devienne une marque. Et que on n'en est pas encore là, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, moi je reste optimiste, et je reste optimiste, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de violence quand on est arrivé à la mission sur place, toutes les semaines on était là, avec les élus, parce qu'ils avaient fait voter, qu'il y avait eu un vote de fait sur Notre-Dame-des-Landes, ils étaient extrêmement déçus, et finalement je m'aperçois qu'aujourd'hui, que ce soit Johanna Roland, la maire de Nantes, ou Grosvalet, qui est président du département, eh bien ils font avec, et ils restent positifs.
Bon. Oui, la violence existe encore, notamment lors des séquences d'évacuation, il y a eu des fusée de lancer en direction des hélicoptères et quelques cocktails Molotov. On va en reparler tout à l'heure. Après ce qui ressemble à un geste de bonne volonté hier des zadistes, est-ce que les évacuations sont toujours d'actualité selon vous, Gérard Felzer, ou seulement suspendues à un nouveau calendrier?
Alors, tout dépend de la population qui est venue renforcer. C'est les vacances. On vient, la fleur à la main, et puis on vient passer des vacances, il fait beau. Alors ça, c'est ceux qui soutiennent, ils n'ont pas vocation à rester. Mais il y a eu aussi quelques, les bad blocks, qu'on appelle,
qui les viennent... Les groupuscules, qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre.
Absolument, et donc ils viennent d'Allemagne, d'Espagne, etc. Ils ne se comprennent pas toujours entre eux, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'ils sont nombreux parmi les zadistes?
Non, ils sont pas non, c'est vraiment une très faible minorité. Ils doivent être sur les 150 arrivés, la supplémentaire, là, dernièrement. Il y en a peut-être une trentaine ou une quarantaine.
Ah, une trentaine plus, tout de même, qui font du bruit. Hein.
Qui font du bruit, voilà. Et il faut s'en méfier parce que ce sont les mêmes qui sont au centre de Nantes ou de Rennes pour faire les manifestations violentes. Donc, voilà. Il y a une porosité qui m'a gêné pendant un certain temps. C'est que eux disaient, avec ceux qui voulaient rester, qui avaient des projets, disaient aux agriculteurs historiques, dis donc, on a bouffé dans la même gamelle pendant des années, maintenant que la soupe est bonne, tu vas pas nous jeter. Nous on a décidé de rester. Les autres disaient, d'accord, tu restes, mais avec un projet. Donc, on en est là, aujourd'hui, avec des projets qui sont assez enthousiasmants, je trouve. Il y a... Par exemple,
c'est une zone de 270 hectares, hein. C'est tout de même pas rien. Hein.
1650 hectares au total.
Ah, au total, mais celle qui doit être... Les 40 dossiers concernent 270 hectares.
Alors, il y en a que 26 qui sont vraiment des projets agricoles. Les autres, c'est para-agricole, c'est-à-dire il y a de l'énergie, il y a des boulangeries. Alors, pourquoi trois boulangeries au lieu d'une? Bon, on peut se poser la question. Il y a des bibliothèques, mais tout ça, ça peut se concrétiser dans un mode de vie qui peut être une expérimentation.
Je reviens à ma question initiale, Gérard Felzer, vous n'avez pas totalement répondu. Est-ce que les gendarmes, aujourd'hui, doivent quitter la zone?
Alors, ça serait une mesure d'apaisement. Il faut, en tous les cas, qu'il y ait une présence discrète. C'est ce qu'ils ont fait là. Moi, je coup de chapeau aussi, parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement extrêmement violent. Donc, ne pas répondre aux provocations, pour des gendarmes, c'était pas du tout évident. Ils l'ont fait. Ça a été compris de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une présence un peu plus discrète, oui, la plus discrète possible. Mais c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Alors, jeu du chat et la souris. Hein. La nuit, on remettait les barricades sur la route qu'il fallait dégager, et puis le matin, on les enlevait. Donc, aujourd'hui, ça paraît s'apaiser sur des projets. Moi, je pense qu'il fallait commencer par là. On a commencé par montrer les gros bras, notamment aux élus locaux qui étaient pour l'aéroport. Déjà, la pilule était difficile à avaler pour eux. En plus, on leur mettait du désordre, on coupait la route. C'était pas évident. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait autour de la table, moi je pense qu'il devrait y avoir un comité de suivi pour pouvoir mettre du lien entre la préfecture et les zadistes, et puis mettre en avant les projets et les accompagner.
Ce comité de suivi que vous évoquez, c'est aussi ce que demandent les zadistes lorsqu'ils ont demandé hier, en remettant leur dossier, que ce soit désormais au service public de montrer un peu de modération, désormais au pouvoir public de faire preuve de modération et de dialogue. Quelle peut être cette marge de manœuvre du gouvernement et de la préfète en particulier?
Eh bien, un comité de suivi, c'est un organisme, ou pas un organisme, une équipe qui pourrait être composée de différents acteurs, des agriculteurs historiques, des associations, il y a beaucoup d'associations. des riverains, etc. Et construire un projet commun et puis peut-être investir. Par exemple, moi j'ai vu une société qui s'appelle AQO Energy qui font des serres et des fermes solaires qui fournissent de l'énergie en même temps, qui chauffent les serres. Et c'est une agriculture nouvelle. Les fermes d'avenir aussi, de Maxime de Rostelange. Il y a des tas de gens qui ont envie d'expérimenter et de faire cette terre d'avenir.
Gérard Felzer, on va reprendre cette interview dans quelques minutes après la revue de presse. L'avenir de Notre-Dame-des-Landes, on va en parler aussi avec notre second invité, Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne. Il y aura aussi Patricia Martin, les questions des auditeurs. Vous nous appelez donc les auditeurs au 01 45 24 7000. Question ce matin sur l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une sortie de crise. On en parle depuis 8h20 avec Gérard Felzer, l'un des médiateurs, qui a été l'un des médiateurs dans le projet d'aéroport. Gérard Felzer, d'abord une question de Patricia Martin.
Oui, vous parliez tout à l'heure de la violence. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une manière générale, une forte tendance désormais à la radicalité? Évidemment, il y a Notre-Dame-des-Landes, mais on peut penser au barrage de Sivens, au projet de Bure. On se dit que les plus radicaux prennent la main parce que, parallèlement à ça, du côté du politique, on tergiverse, on cherche la moins mauvaise solution, on risque d'ailleurs de ne satisfaire personne. Donc l'anarchie prend la place là où il devrait y avoir peut-être une ligne politique plus...
Oui, les gens ont horreur du vide. Et donc, c'est vrai que la place, elle est prise facilement par des extrémistes. Ce qui a causé tous ces problèmes, c'est un problème de société. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le premier mot de notre rapport, la première phrase, c'est « Où atterrir ?» à point d'interrogation. C'est le philosophe Bruno Latour et qui a fait un ouvrage sur l'adaptation des décisions collectives aux conditions de la société, de la nouvelle société. Assez complexe. Et donc, c'était bien inspiré par rapport à ça. C'est un monde complexe. On a été victime de la non-décision pendant 50 ans. Et ça a été dramatique. Et c'est ce qui a porté, finalement, les gens nous disaient, prenez une décision, quelle que soit la décision, mais prenez-la, parce qu'on n'en peut plus de ces tergiversations, c'est le désordre. Il n'y a pas d'avenir sans projet. Maintenant, j'espère qu'enfin, il y aura un projet.
Mais du côté d'Europe Écologie Les Verts ou des associations, est-ce qu'il y a eu suffisamment de prises de position, alors, suffisamment fermes et des...
Alors, il y a eu des prises de position, souvent excessives, mais en tous les cas, ça a ajouté les oppositions politiques, c'est devenu très politique, hein, ont brouillé totalement les projets. Donc, la majorité des élus qui ont organisé ce référendum, sur lequel on pourrait revenir qui devait voter ou pas, finalement, on a ramené ça au département, alors que la Vendée, par exemple, qui était plutôt contre l'aéroport...
Ça n'a concerné au final que les habitants de Loire-Atlantique, prononcé à plus de 55% pour...
Absolument. Donc, nous, on n'est pas revenu là-dessus. Il ne s'agit pas de remettre en cause une consultation. Mais en tous les cas, le politique a fait que ça a brouillé les cartes. C'est devenu une bataille. Il y a là-dessus, effectivement,
des leçons politiques peut-être à tirer.
Absolument.
Il s'était prononcé pour le projet, je termine ma d'ailleurs, phrase, pour le projet d'aéroport.
Absolument. Ouais. On termine le projet, d'ailleurs, par plus jamais ça. Et je vous expliquerai pourquoi.
Alors, nous sommes rejoints tout de suite en duplex de France Bleu Saint-Étienne-Loire par Laurent Pinatel, le porte-parole national de la Confédération Paysanne. Bonjour Laurent Pinatel.
Bonjour.
Vous avez toujours appelé au dialogue entre zadistes et gouvernement. Estimez-vous, et je vous pose la même question qu'à Gérard Felzer tout à l'heure, est-ce que nous sommes aujourd'hui, ce matin, dans une séquence d'apaisement durable selon vous ?
Moi, je pense qu'il y a eu des gages qui ont été donnés hier et puis mercredi par les zadistes et les composants les composants de la lutte sur la ZAD qui ont été très forts. Il faut quand même remettre dans le contexte. Il y a eu une violence de l'État absolument inouïe durant une semaine. Je veux dire, quand on arrive à tirer des grenades lacrymo par hélicoptère, quand pendant une semaine on noie des jeunes sous les grenades lacrymogènes, il y a quand même des agressions assez fortes. Il y a des gens qui ont vu leur habitat détruit, je pense notamment aux gens de la ferme des Sans-Noms. Malgré ça, malgré toutes ces agressions, les gens sont revenus autour de la table, en préfecture, autour de Nicolas Hulot et de Nicole Klein en milieu de semaine. Hier, ils sont rentrés dans la procédure que leur a demandé l'État, c'est-à-dire de déposer des projets, effectivement, individuels. Donc, il y a quand même une grosse volonté de dialogue de la part des habitants de la ZAD, une volonté de construire vraiment très très forte. Donc, nous, on estime à la Confédération Paysanne qu'effectivement, ces appels au dialogue de nombreuses composantes, hein, du du mouvement ont été entendus. Aujourd'hui, on espère simplement que l'État va comprendre que, à partir du moment où les gens acceptent de rentrer dans des process et des procédures, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour justement ces fameux dossiers qu'évoquait la préfète hier soir, qui restent à affiner. Il va falloir du temps pour justement que ces projets mûrissent. Moi, ça, je me suis installé paysan en 95, j'ai mis un an pour monter mon dossier. J'ai pas mis deux mois, quoi.
Ça reste à affiner, effectivement, a dit la préfète Nicole Klein, en précisant, a-t-elle dit, que tous les dossiers n'étaient pas forcément recevables pour l'instant parmi la quarantaine. Est-ce que vous estimez désormais, maintenant que cette quarantaine de dossiers a été déposée en préfecture, est-ce que vous estimez, Laurent Pinatel, que toute évacuation à court ou moyen terme n'est plus d'actualité ?
Aujourd'hui, ça serait vraiment inconcevable que l'État reprenne les évacuations après les gestes d'apaisement et les vraiment cette volonté de construire qui émane du collectif de la ZAD. L'intervenant Jean-Raphaël Zer l'a bien précisé, hein, on est sur une démocratie extrême, une démocratie très horizontale avec des assemblées générales tous les soirs. Donc, s'il y a eu cette volonté d'aller déposer des dossiers, ça veut dire que l'ensemble des habitants de la ZAD ont compris qu'il fallait aller vers l'apaisement. Donc aujourd'hui, ça serait vraiment malvenu de la part de l'État de réintervenir militairement sur le terrain tout de suite. Il faut simplement aussi intégrer la notion, Emmanuel Macron a beaucoup ce mot à la bouche, la notion de ruralité. Il était dans l'Orne l'autre jour spécifiquement pour marquer son attachement à la ruralité. La ruralité, c'est simplement d'accepter le fait que sur cette zone, il n'y a pas seulement des projets agricoles, il y a des projets culturels qui ont été déposés hier, il y a des projets artisanaux, et il va falloir faire vivre tout ça sur une petite partie de la ZAD. Ça a été dit aussi tout à l'heure. On est sur un projet autour de 280 hectares occupés et la ZAD, elle fait 1650 hectares.
Quel est
donc
le projet
qu'il y a
précis,
vraiment place pour tout le monde.
Laurent Pinatel, quel est le projet précis ? Vous parliez de projet rural, de projet agricole, il y a aussi des projets culturels. C'est quoi les projets précis des ZADistes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont fédérés sur la lutte contre l'aéroport. Et je pense que dans les temps un peu comme ça troublés, il faut bien rappeler qu'on a gagné cette lutte et que eux, ils ont apporté une pierre énorme à cet édifice de refuser l'aéroport. Sur leur projet de vie, sur ce qu'ils ont construit depuis des années, pour beaucoup depuis 2012, pour d'autres depuis bien avant, il y a le vivre ensemble, c'est-à-dire il y a des gens qui produisent et il y a des gens qui consomment et il y a du troc, il y a des échanges, il y a des bibliothèques, il y a des lieux de vie, il y a des artisans, il y a des intellectuels qui sont sur la zone, qui font vivre le mouvement, qui sont quelque part dans une société qui représente l'ensemble de la société, mais qui est présente sur la ZAD. Il faut nier aucune des composantes de cette lutte, de cette vivre ensemble. Donc, les projets culturels ont toute leur place sur la ZAD, parce qu'il faut bien imaginer que ça n'empêche pas l'arrivée ou le maintien d'autres agriculteurs sur la zone qui cultivent des terres. Aujourd'hui, le problème pour cultiver les terres, c'est la présence policière.
Vous estimez, vous disiez à l'instant qu'il n'est pas question de poursuivre les évacuations. Est-ce que vous estimez pour autant que les gendarmes aussi doivent quitter carrément la ZAD ce matin, aujourd'hui ?
Nous, on avait mis en préalable, la Confédération paysanne, après l'annonce par Édouard Philippe de l'abandon du projet d'aéroport, on avait dit la contrepartie, c'est forcément que cette zone doit être rendue à la libre circulation de ses habitants. Donc, on avait attaché beaucoup d'importance à l'ouverture, à la réouverture de la fameuse route des chicanes. Aujourd'hui, la présence policière très très forte sur la zone crée des tensions. Il n'empêche que nous, il nous semble que les zadistes ont fait et les zadistes et les opposants historiques ont fait un geste hier en déposant des dossiers. Il faut aussi que la zone redevienne circulante. Il faut aussi que les deux départementales puissent être ouvertes à la circulation. Et il nous semble qu'une fois que tout ça sera effectif, la présence policière peut effectivement baisser, diminuer. Mais quoi qu'il arrive, il y a beaucoup trop de monde. Et côté zadiste, ça a été dit tout à l'heure par votre intervenant, et côté zadiste, et côté force de l'ordre, il faut faire baisser cette pression, cette extrême violence pour pas arriver à des extrémités comme on a pu connaître à Sivens. Il y a des gestes qui sont faits d'un côté zadiste, il faut aussi qu'il y ait des gestes de l'État, peut-être qu'il faut diminuer un peu la pression policière. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de tirer des grenades lacrymogènes à tout va, quoi.
Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, et Gérard Felzer, qui a été l'un des médiateurs dans le projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On va aller faire un tour au standard avec une première question, celle de Daniel qui est en ligne. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Vous m'entendez ?
Oui, très bien. Quelle est votre question ?
Alors, je vous remercie d'avoir pris ma question. Je suis un auditeur fidèle de France Inter depuis des dizaines d'années. Et donc, ma question, c'était quelle est la raison profonde, je dis bien la raison profonde, qui fait qu'on n'a pas voulu accepter une proposition du type de celle de la SCTL, qui fonctionne depuis à peu près 30 ans, de manière parfaitement intéressante au niveau du Larzac, que je connais très bien.
Alors, Gérard Felzer, le Larzac, c'était... Contre oui. ou avec l'armée, mais enfin,
alors,
c'était...
Laurent Pinatel en saura beaucoup plus que moi. On a posé la question, on a été voir. J'ai posé la question à José Bové également. C'est un modèle qui a pris du temps, mais qui finalement a marché parce que, d'abord, on n'en entend plus parler. Il y a un mode de vie qui est assez intéressant. Ce qui se passe en ce moment pour faire un copier-coller, c'est pas tout à fait le même contexte, mais en tous les cas, les expériences peuvent être intéressantes. Mais ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années, c'est qu'on était dans un schéma contre, on était dans un schéma de lutte, comme a dit Laurent Pinatel, et aujourd'hui il faut changer de paradigme, on doit être dans le positif, on doit être dans la proposition, la construction, et c'est pas facile cette transition.
Laurent Pinatel à la Confédération Paysanne, le projet Larzac qui dure donc, il repose sur quoi ?
Alors, le projet Larzac, c'est une convention entre l'État, qui est propriétaire d'une grande partie des terrains du Larzac, et des paysans, des paysannes qui vivent sur cette zone-là. Et sur la zone du Larzac, on s'aperçoit que, contrairement à ailleurs en France, quand il y a quelqu'un qui part en retraite, il y a quelqu'un qui s'installe. Donc c'est un système qui effectivement marche. Est-ce qu'il est transposable sur la zone de Notre-Dame-des-Landes ? Pour partie, certainement. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut écouter et entendre les aspirations des habitants de cette zone-là, et que c'est à eux de co-construire leur projet collectif, leur structure collective. Et puis, de toute façon, il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, on est sur des terrains qui sont classés constructibles, qu'il va y avoir des modifications, des plans locaux d'urbanisme pour les rendre agricoles, qu'il va y avoir une période de 1-2 ans où il va y avoir peut-être un transfert de propriété. Aujourd'hui, c'est l'État qui est propriétaire. Peut-être que demain, ce sera le conseil départemental. Quoi qu'il arrive, il va y avoir tous ces événements qui vont se succéder. Et durant ce laps de temps, il faut construire cette structure qui va permettre aux zadistes de devenir locataires, qui va permettre aux zadistes d'avoir des baux, de payer des fermages, de rentrer dans le cadre que eux ils auront inventé, tout en étant dans un cadre légal.
Gérard
Donc il va falloir du temps, mais quoi qu'il arrive, nous on est assez optimistes sur l'issue de ce dossier.
Derrière l'avenir de la zone Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi la question que laissera la gouvernance jupitérienne à l'oxymore utopie réelle qui va se développer là-bas. Bah, vous qui connaissez bien Nicolas Hulot, vous êtes un de ses proches, vous avez des échos. Est-ce que l'utopie réelle s'accommode assez bien de la gouvernance jupitérienne ?
Oui, il y a un terrain d'expérience politique à faire aussi. C'est une région qui est très dynamique. Et moi, je salue vraiment, quand vous allez sur l'île de Nantes, il y a des projets formidables. Et l'extension... de la ville vers le sud qui va se faire, c'est mettre autour de la table tous ces constructeurs. Il y a des choses à faire, et on n'a pas parlé des populations perdantes aussi, c'est les riverains. Les riverains qui ont le bruit des avions au sud.
Il y a pas mal de plaintes, on commence à les entendre. Hein,
absolument, et là je crois, et la DGAC, je la salue parce que j'ai emmené le directeur de la DGAC dans un simulateur, ne serait-ce qu'avant-hier, pour inventer des nouvelles procédures qui allègent considérablement le bruit pour les riverains.
En deux mots, vous me disiez aussi qu'il y a désormais des ex-agriculteurs partis qui veulent revenir ?
Oui, alors il y a une association qui s'est montée, la MLSA. Ils veulent revenir, mais bon, on peut pas voir, ils ont vendu leur terrain, alors ils peuvent le racheter.
C'est difficile
évidemment.
De revenir.
C'est difficile de revenir, comme diraient certains, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, et pas la crémière en tous les cas.
C'est joliment dit.
Ça dépend de la crémière.
Ça dépend de la crémière et la précision. Et de Patricia Martin. Ouais. Merci Gérard Felzer. Je rappelle que vous avez été l'un des médiateurs dans le dossier d'aéroport. Et merci à Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci et bonne journée. Il est 8h54 sur France Inter.